Nous accueillons Laurence maintenant au 39-21. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Laurence?
Ça va.
D'où nous appelez-vous Laurence?
Alors, de la commune de Lys, dans l'Essonne.
D'accord. Quel âge avez-vous?
39 ans.
39 ans, d'accord. Nous sommes parlés, Laurence, nous sommes parlés cet après-midi, avant que vous interveniez ce soir, et vous m'avez raconté votre histoire. Je dis votre histoire parce que c'est, comme nous allons vous écouter, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé un cauchemar en mars 2018. Et vraiment, voilà, je tenais à vous avoir ce soir sur cette antenne pour que vous puissiez nous raconter ce que vous avez traversé, vous et les vôtres. Parce que votre histoire, vous allez le voir, chers amis, concerne beaucoup d'entre nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que frères et sœurs, cousins, amis. Donc c'est pour ça que Laurence va nous raconter ce soir ce qui est arrivé à sa famille. Voilà, en mars 2018, que se passe-t-il, Laurence?
Alors en mars 2018, donc ma dernière sœur, Océane, a décidé de mettre fin à ses jours en s'allongeant sur la voie ferrée en gare d'Évry-Courcouronnes.
Quel âge avait Océane?
17 ans.
17 ans. Qu'est-ce qui a poussé Océane à commettre un tel geste?
Alors, suite aux enquêtes, donc on a vu que son geste, c'était à la suite d'une succession d'incidents, si on peut dire, puisqu'elle a été victime d'escroquerie.
Oui.
Et cette escroquerie, malheureusement, a engendré pas mal d'actions qui l'ont poussé, donc ce fameux 8 mars, à mettre fin à ses jours.
Alors, elle met fin à ses jours suite à ces escroqueries. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quel type d'escroquerie elle est victime et ce qui la pousse, hein, visiblement, à prendre cette décision?
Oui, alors en fait, c'est voilà, quelque chose qui s'est... Elle a fait la rencontre d'un garçon lors d'une fête d'anniversaire, donc en fin d'année 2017. Une relation qui a débuté, on va dire, concrètement courant fin janvier 2018. Et ce garçon, qui s'est avéré être un manipulateur, puisqu'il n'en était pas à son premier fait au niveau de l'escroquerie, donc a clairement charmé Océane en se faisant passer pour un garçon travailleur, puisque excusez-moi, l'escroquerie qu'a subi Océane, c'était une escroquerie de chèque volé. Et ce garçon, en se rapprochant d'Océane, lui a évoqué sa situation en tant que chauffeur VTC, rencontrant des problèmes avec son compte bancaire. Donc a sollicité Océane afin de pouvoir avoir accès en fait à son compte bancaire en lui demandant tout simplement de faire un dépôt de chèques, en bien sûr lui précisant que c'était des chèques de salaire, de ses revenus.
Oui.
Et surtout en la rassurant, lui disant « ne t'inquiète pas, si voilà, tu rencontres un souci, je serai là ».
Donc Océane prend ses chèques et ne se doute pas que c'est une escroquerie, bien évidemment, et le fait par amour en fait.
Exactement, par amour, par gentillesse surtout, parce qu'il faut savoir que Océane a toujours eu le cœur sur la main, elle était toujours... très proche des gens, hein, puisque lors des nombreux hommages qui lui ont été rendus, des personnes inconnues de notre famille sont venues nous voir en nous disant « mais c'est pas possible, c'est pas la jeune fille qui s'arrêtait pour nous demander si on n'avait pas besoin d'un peu d'aide, qui nous disait toujours bonjour, qui avait toujours le sourire ». Donc c'est aussi, certes, par amour, hein, puisque bon, c'était pour nous, hein, on a eu connaissance de cette relation-là, donc le jour de son décès, et on n'avait pas eu de connaissance qu'elle avait eu un flirt auparavant. Donc c'était pour nous sa première expérience, son premier flirt.
D'accord. C'était donc plutôt une jeune fille très sérieuse, visiblement. Elle faisait quoi au moment où tout ça arrive? Elle était en cours, enfin au lycée, et que faisait-elle?
Oui. Alors justement, c'était l'année de son bac, elle devait passer le bac.
Oui.
Océane était une élève brillante, hein, avec des notes exceptionnelles, justement du fait de sa scolarité excellente. Nous avions demandé à quelle est la possibilité d'avoir son bac à titre honorifique au niveau du ministre de l'Éducation nationale.
Oui.
Malheureusement, ça nous a été refusé par rapport à tout ce qui est réglementaire, ce que je conçois. Mais cette demande-là, au-delà d'Océane, c'était aussi par rapport à nos parents, puisque voilà, on est issus d'une fratrie de 7. Océane, c'était la dernière à passer son bac et nous l'avions tous eu. Donc c'était vraiment pour voilà, montrer à nos parents de ne pas se sentir coupables que dans leur travail au niveau de notre éducation, ils avaient vraiment donné leur maximum. Donc ça ne, voilà, ça ne concernait pas que Océane, mais nous en tant qu'enfants, frères et sœurs d'Océane, on voulait vraiment justement, voilà, ça n'aurait pas ramené Océane, mais pour nos parents, il y avait quand même une symbolique, c'était voilà, on a fait un travail, on vous a éduqué, on vous a donné des valeurs et c'était pour eux la plus belle des réussites.
Malheureusement, elle ne pourra pas passer son bac cette année-là.
Non.
Elle met fin à ses jours, donc on reviendra à ce jour fatidique. Mais donc, elle encaisse ses chèques. Et de ce que vous en avez su, hein, bien évidemment, puisque vous avez découvert tout cela après. Ce garçon, en fait, comment touche-t-il l'argent? Il demande à Océane d'aller retirer de l'argent? Comment ça se passe, tout ça?
Alors, non, il lui a tout simplement demandé de lui passer sa carte de retrait, ce qu'elle a fait, hein, sans être, on va dire, alertée sur le coup d'une possible escroquerie, hein, puisque, voilà, elle avait confiance en cet escroc, hein, très clairement. Et c'est lui qui faisait les retraits, et ça a été confirmé, justement, puisque l'enquête a été faite par rapport au suicide d'Océane.
Oui.
Et on a pu effectivement l'identifier à différents endroits où il faisait lui-même les retraits au guichet automatique.
D'accord. Et il a réussi à faire des retraits pour un montant de combien, vous l'avez su?
Non, mais il a réussi quand même à faire, et c'est ce qui nous a semblé très bizarre, puisqu'Océane avait un compte jeune, il a pu quand même faire plusieurs retraits dans la semaine avec des montants dépassant 100 euros.
Alors, dépassant 100 euros, est-ce que c'était des montants de 300, 400, 500 euros parfois?
Oui, exactement, puisque Océane, donc, le jour de son décès, était à découvert, je crois, de pas loin de 2000 euros.
D'accord, et elle avait un peu d'argent sur ce compte?
Alors, ma mère lui effectuait un virement mensuel et c'était son argent de poche. Et Océane n'était pas du tout dépensière. Elle connaissait la valeur de l'argent, très clairement. Hein. Elle faisait très attention. Pour une jeune fille de son âge, nous, on était vraiment assez fiers, puisque cette notion d'argent à son âge, c'était quand même assez impressionnant. C'était vraiment, je regarde... pour ne pas justement me retrouver en difficulté ou pour ne pas manquer, puisque ma mère m'a fait confiance, elle m'a fourni de l'argent de poche, je lui montre que je suis capable de gérer.
Elle avait économisé un peu ou pas? Elle avait réussi à mettre un peu de côté?
Alors, elle faisait pendant les vacances scolaires, donc il y avait un programme au niveau de la commune, justement pour participer à certains travaux. Donc elle faisait son petit argent de poche elle-même.
D'accord.
En allant justement participer à des travaux de la commune.
Bon, en tout cas, en étant à découvert de 2000 euros, on peut aisément comprendre que c'est ce garçon qui a 19 ans, c'est ça, au moment des faits?
Oui, je crois qu'il était, il devait avoir 19-20 ans. Hein.
D'accord. Il a quand même réussi à tirer près de 3000 euros, pratiquement.
C'est ça.
Comment se fait-il que, en ayant un compte jeune, Océane avait une carte qui puisse tirer autant d'argent? Parce que, pour le coup, j'ai une fille de 16 ans et je sais que on peut plafonner une carte.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez une réponse à ça?
Ah oui, on a une réponse parce qu'effectivement, ma mère, mes parents, c'est pas la première fois qu'ils ouvraient un compte jeune, hein, puisqu'on l'a tous eu. Donc mes parents connaissent très bien les conditions, ce qu'ils doivent notifier auprès de la banque. Sauf que là, donc suite à l'enquête qui a été faite, et je tiens vraiment à dire un grand merci donc aux policiers qui étaient en charge de l'enquête concernant le décès d'Océane, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a pu avancer et justement accéder à certaines procédures. Donc le jour donc du suicide d'Océane, donc on a eu quand même pas mal d'éléments puisqu'elle nous a laissé une lettre. D'accord. Et dans cette lettre, justement, elle nous explique cette escroquerie au niveau des chèques. Tout de suite, on a été. Ma mère nous a dit, mais c'est pas possible qu'on ait pu autant d'argent puisque sur le contrat auprès de la banque, il y avait bien une clause comme quoi elle avait interdiction de déposer des chèques en banque et surtout qu'il y avait un plafond par rapport au retrait. Mmh. Donc on a été effectivement regardé, puisqu'on avait à notre disposition ce fameux contrat, et effectivement c'était bien écrit noir sur blanc qu'elle avait interdiction de déposer un chèque sur son compte et qu'il y avait, je crois, voilà, un minimum voilà, à retirer par semaine ou par mois. D'accord. Au niveau de la banque.
D'accord. Alors, on reviendra sur la banque, précisément, parce que au-delà de ne pas avoir mis ça en place, ce qui aurait pu finalement alerter cette banque et déclencher même une attitude autre que la banque, c'est-à-dire on verra que l'attitude de la banque est mise vraiment en cause aujourd'hui dans cette volonté de mettre fin à ces jours d'Océane. Il y a une responsabilité de la banque qui est avancée aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'elle prenne cette décision aussi grave par rapport à finalement un... Bon, voilà, elle s'est fait avoir... Oui, du haut de ses 17 ans, on peut considérer comme ça qu'elle a pu penser que c'était grave ce qui s'était passé, mais comment, telle que vous la connaissiez, Océane, comment elle va jusque-là, en fait ?
Alors, son choix radical, dramatique, c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi elle ne nous en a pas parlé ? Est-ce que, voilà, il n'y avait pas des signes ? Malheureusement, aujourd'hui... Ces questions-là, on a arrêté de se les poser parce que très clairement, moi, j'ai essayé de revoir les événements antérieurs et Océane n'a montré aucun mal-être, aucun malaise. Bien au contraire, moi, la veille, puisque je vivais et je vis toujours avec ma mère et donc avec Océane, voilà, c'était toujours j'ai le sourire. Elle était très souriante. J'ai même rigolé avec elle avant qu'elle aille se coucher. Une attitude très normale, puisque voilà, elle est venue m'apporter son linge en me disant ne le fais pas tourner ce soir quand tu auras le temps. Donc il n'y a eu aucun signe. Après, son choix. Océane, c'était une jeune fille vraiment très carrée, avec pour elle, il n'y avait pas de point sombre dans sa vie. Le seul point sombre qui est arrivé, c'est cette rencontre, cette escroquerie qu'elle n'a pas su gérer. Mmh. Alors voilà, ça après c'est encore un mystère, on va dire, au niveau des personnes qui font ce choix. Irrémédiable. Hein.
Oui,
parce que tout s'est passé, on va dire, dans un laps de temps très court. Puisque, voilà, la rencontre de ce garçon novembre 2017, leur relation, on va dire, débute fin janvier 2018, elle met fin à ses jours un mois et demi après. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'est fait très rapidement. Et c'est vrai que quand on reprend l'histoire, petit bout par petit bout, on voit qu'il y a une succession, en fait, d'éléments qui ont poussé Océane à faire ce choix.
Mais ce choix, comme vous l'appelez, irrémédiable, est-ce qu'on peut considérer que la jeune fille carrée, la jeune fille sérieuse qu'elle était, tout à coup, a totalement été submergée par, je ne sais pas moi, la peur de... La peur de vous décevoir, votre maman, ses frères et sœurs. Il y a des garçons dans la fratrie.
Oui, donc, tout à fait.
Décevoir cette fratrie, les siens, jusqu'à même leur causer des ennuis. Est-ce que dans cette lettre, vous sentez ce désarroi, ce naufrage, en fait, qu'elle a vécu ?
Alors... Là encore, on parle d'une on va dire jeune femme de 17 ans, hein,
oui.
Donc, qui n'a pas encore une maturité. Elle explique très clairement hein, dans sa lettre que j'ai lue le jour même, où je ne dirais pas que j'ai été par la force des choses obligée d'accepter. Mais j'ai compris en fait. C'est pas une peur qu'elle a eue, hein, parce que nous sommes une famille voilà, où on discute, où on dialogue. Il n'y a pas de sujet tabou, il y a un respect mutuel. Et elle l'écrit, hein, elle prend la responsabilité de ce qu'elle a fait. Parce que pour elle, elle est fautive de cette fait, ben, clairement, à voir. Pour elle, c'est voilà, pour réparer, on va dire, éventuellement les problèmes qu'elle risquerait d'amener, puisque je pense que on a peut-être essayé de lui parler de problèmes au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la banque. Donc, je pense que ce condensé d'informations pour une jeune fille de 17 ans, c'est inimaginable. À 17 ans, je passe mon bac.
Bien sûr.
Là, on me parle de problèmes d'escroquerie, hein, d'escroquerie où je peux être complice, hein, si ce n'est pas prouvé. Mm-hmm. Aussi,
mais,
hein.
Mais alors, qui lui parle de ça? Parce que vu que vous n'avez pas été au courant, qui à un moment lui parle d'escroquerie, de police et peut-être je ne sais pas, peut-être quelqu'un lui a parlé de prison, en tout cas de choses suffisamment graves pour que cette petite, elle prenne tellement peur qu'elle décide de disparaître, hein, finalement,
oui.
Parce que c'est ça qu'elle vous explique dans sa lettre.
C'est ça. Et ben, tout simplement, la seule personne qu'elle a sollicitée pour avoir une aide et un soutien, ça a été le directeur de la banque, qu'elle a rencontré donc la veille de son suicide. On l'a su, justement, en lisant, à la lecture de sa lettre.
Le directeur de la banque, d'accord.
Bon. Exactement.
Donc le directeur de cette banque reçoit Océane.
Oui.
Et c'est donc lui qui lui parle d'escroquerie, de police, de prison.
Alors, vraisemblablement, donc ça c'est Océane qui l'écrit, mais moi, le jour même hein, du suicide d'Océane, j'ai souhaité rencontrer la personne, hein, le professionnel au niveau bancaire, qui avait donné de telles informations à une mineure de 17 ans sans représentant légal.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'une... Une banque qui s'aperçoit de ça tout de suite, son rôle, hein, je ne crois pas m'avancer des tonnes en vous disant qu'elle doit, enfin, il doit décrocher son téléphone et appeler les parents tout de suite. Normalement,
exactement.
C'est la procédure.
Oui, surtout ne pas recevoir
un mineur.
C'est ça.
C'est insensé cette histoire. Insensé.
Exactement. Donc, et c'est là qu'on me présente donc. Ce monsieur qui est voilà, en qualité de directeur de l'agence. Et là, je lui demande de m'expliquer ce qu'il lui a dit. Et là, il me dit, mais voilà, j'ai dit à votre sœur d'en parler à vos parents. Et là, je me revois encore hein, en lui disant, mais vous vous rendez compte que vous dites à une mineure de 17 ans, premièrement, d'aller voir ses parents, leur dire que bah, voilà, elle a un flirt. Mais c'est que ce flirt-là est un escroc. Qui l'a escroqué de quelques milliers d'euros, mais j'ai fait non. C'est pas possible. Et je suis sortie. Je suis sortie de cette agence. Et ce qui a été confirmé, donc, lors, puisqu'il y a eu un procès au pénal pour escroquerie, donc en octobre 2019, et le directeur de cette banque a été appelé en qualité de témoin.
Oui.
Et c'est vrai que là, son témoignage, je ne vous cache pas, on est tombé des nues.
Pourquoi cela?
Alors déjà, premièrement, suite à l'enquête, on a découvert qu'Océane, qui était, encore une fois, une jeune fille très intelligente, lors du dépôt de ses chèques, a quand même contacté par mail sa conseillère en lui disant, écoutez, je viens de déposer des chèques en banque, vous pouvez vérifier et si ça vous paraît douteux, ne les encaissez pas. Elle n'a pas envoyé un mail, elle en a envoyé deux, voire, je crois, trois.
D'accord. Donc, et déjà, la conseillère n'a pas bougé, en fait.
Non. Et nous-mêmes, nous n'avons pas été alertés. Mmh. Donc, en fait, depuis février, Océane a alerté parce qu'elle avait un doute. Ils ont laissé voilà, le chèque s'encaisser, les retraits se faire, et normalement, il aurait dû avoir aussi une alerte, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que l'escroquerie au chèque volé est quand même connue au niveau des banques, puisque c'est une escroquerie qui est, entre guillemets, facile, et qu'on s'en aperçoit seulement au bout de quelques jours, quand le propriétaire du chèque volé fait un signalement.
Complètement.
Donc ça, tout... Voilà, donc là, au niveau de cette magouille-là, les escrocs sont au courant, mais les banques sont au courant également. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a clairement une négligence.
Oui, il y a eu une négligence. Mais est-ce que aujourd'hui, en fait, la responsabilité de cette banque et de son directeur, vous la mettez carrément, est-ce que vous allez porter plainte contre cette banque parce que...
Exactement. Mmh. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos démarches, on veut vraiment dénoncer et alerter, puisque lors du procès au pénal, comme je disais, le directeur est venu en qualité de témoin, a quand même dit et reconnu que cette escroquerie-là, elle est connue au sein de son agence. Donc, en entendant son témoignage, on se dit, mais alors, vous êtes au courant que ça existe, visiblement que c'est quelque chose qui est un fléau au niveau de votre agence. Mais là, il y a une jeune fille qui vous alerte, elle vous donne les éléments et rien n'est fait. Donc, effectivement, on a décidé de lancer une procédure et nous avons une audience face à la banque en février 2021.
Oui, je vais vous dire, l'année dernière, je me suis fait voler dans ma boîte aux lettres un chéquier, il y a un an et demi à peu près. Et je vais vous dire que les banques sont parfaitement au courant de malheureusement, hein, d'ailleurs, de tout ça. Que chaque année, c'est, je ne sais plus, un budget de je ne sais plus combien. Et j'ai même vu mon nom avec mon adresse, mais avec une photo de quelqu'un d'autre, en fait. Falsification, carte d'identité et tout. Donc, et c'était un jeune homme de 21 ans. Il était né, je me rappelle, il était né en 98 ou 99. Donc, c'était, oui, c'est ça, 22 ans, 23 ans. En fait, je voulais vraiment vous témoigner de cette histoire parce que... mais bon, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien. On se retrouve juste après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Laurence.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h28 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et si vous nous rejoignez juste maintenant, eh bien soyez les bienvenus. Nous échangeons avec Laurence dont la jeune sœur Océane de 17 ans en mars 2018 a mis fin à ses jours suite à une histoire de chèque qu'elle avait accepté de son petit copain de l'époque, des chèques qui était volé et Océane a malheureusement accepté de les déposer sur son compte avant de s'apercevoir que ces chèques étaient volés et que c'était une escroquerie. Et au lieu d'en parler à ses parents, au lieu d'en parler à ses frères et sœurs, a été gagnée sans doute par une honte, une peur qui l'a poussée à commettre l'irréparable. J'étais en train de penser, vous savez, à tous ces enfants, en fait, qui aujourd'hui, à partir de 16 ans, ont une carte pour tirer de l'argent, ont un compte en banque. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ce soir, de grands-parents qui nous écoutent aussi et qui voient en Océane leurs petits-enfants ou leurs enfants. Je viens moi-même d'ouvrir un compte à ma fille de 16 ans. Vous voyez, un petit compte. Mais finalement, c'est ce que je me disais, c'est que c'est quand même un piège aussi, parce que ça attire les malfaisants. Hein. Ces jeunes qui ont des cartes, qui ont un compte en banque. Et c'est ce qui s'est passé. Océane, en fait, elle était sérieuse. Elle était, vous me disiez cet après-midi qu'elle dépensait pour s'acheter une petite chemise ou un t-shirt, 5 euros, 10 euros. Et quand vous m'avez dit ça cet après-midi, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qui l'a perdu, en fait. C'est de voir une somme à travers ses chèques, là, qui était énorme pour elle, et de se dire qu'elle avait fait une grosse, grosse, grosse bêtise. Alors que finalement, ça n'était pas une si grosse bêtise que ça.
C'est ça.
À travers cette histoire, vous avez vécu aussi quelque chose dont vous m'avez parlé cet après-midi et qui m'a aussi... énormément choqué, c'est que ça a un rapport avec les réseaux sociaux.
Oui.
Et j'aimerais que vous m'en parliez parce que je trouve que dans cette histoire, vous avez vraiment été servis, vous et les vôtres, en irrespect, en malheur, bien évidemment. Mais racontez-moi ce qui s'est passé par rapport aux réseaux sociaux.
Alors, voilà, donc le jour du suicide d'Océane, donc un individu qui se trouvait donc, sur le quai a eu donc, un automatisme qui malheureusement fait partie du quotidien aujourd'hui. Son automatisme, c'était de prendre la photo du corps. Ça va être brutal, mais c'est volontaire ce que je dis, pour que les gens comprennent la violence, surtout que nous, on ressent en tant que famille. C'est qu'il a pris le cliché du corps d'Océane coupé en deux sous un train. A préparé, donc, à travailler sa photo, puisqu'il a mis un émoticône et un commentaire, et l'a diffusé sur le réseau social Snapchat. Donc, c'était une double douleur, puisque très clairement, cette vision, cette image qui est très violente, nous, déjà proches, on n'avait pas à la voir, et personne d'autre, puisque c'est de l'intimité, on parle quand même d'une vie, d'une jeune fille qui a mis fin à ses jours dans des conditions très violentes. Et là, le corps de ma sœur a été diffusé sur les réseaux sociaux.
C'est carrément incroyable.
Ouais.
J'étais en train de me dire voilà que voilà cette petite que la vie à laquelle la vie tendait les bras. Hein,
oui.
Fini comme ça sur un réseau social en photo. Enfin, j'ai trouvé que ça, quand vous m'avez raconté ça, c'était le pompon, quoi. C'était, je ne trouve pas les mots, mais j'ai trouvé que finalement ce fait-là venait couronner alourdir votre peine, bien évidemment. Mmh. Mais vous voyez le gâchis, en fait. J'ai trouvé que c'était la dernière note qui venait sonner du gâchis de l'histoire d'Océane, en fait. Et on ne sait pas que dire, en fait, de l'histoire d'Océane, en fait, à part que c'est un gâchis énorme. Mais encore une fois, j'y vois plusieurs choses hein, dans votre histoire. J'y vois une jeune fille qui a reçu une super bonne éducation et qui... Et puis qui voit pas le mal et qui se fait avoir. Et donc, ça m'a vraiment enragé hein, quand vous m'avez raconté ça. Parce que je suis père aussi et que bien évidemment, toutes les mères et tous les pères qui écoutent ce soir peuvent voir leur enfant comme potentielle victime hein, de ce type de choses. Parce que c'est un fiancé, là, mais ça peut être une connaissance, un copain, comme ça. Et en fait... J'ai pensé à l'impuissance que vous avez dû ressentir, en fait. Parce que Océane, elle avait une personnalité qui laissait penser tout sauf ce qui vous est arrivé et ce qui lui est arrivé.
Mais oui, parce qu'elle a toujours été combative, même dans le choix de ses sports. Voilà, Océane, elle a fait de la boxe, elle a fait du football. Donc c'est vrai qu'on... Voilà, elle était très grande de taille, elle faisait plus d'1m70. Une jeune fille, voilà, c'était une fleur qui était en train de s'éclore. Donc c'est vrai qu'avec son tempérament, toujours voilà, à vouloir voilà, une réussite, à vouloir bien faire, c'est vrai que ben là, on se dit que ce petit grain-là a bousillé sa vie.
Alors, Laurence, Clotilde, au 739-21, et je la remercie pour ce SMS, elle vous dit bonsoir et elle vous apporte cette précision et elle nous l'apporte à nous tous, mais je trouve que c'est important pour vous de l'entendre. Elle dit que le suicide n'est pas un choix, mais justement l'absence de choix et que c'est très important à préciser à l'antenne. C'est chose faite, Clotilde, et en même temps j'aimerais savoir ce que vous en pensez, Laurence, parce que le suicide n'est pas un choix, mais justement l'absence de choix. Ça a l'air de résumer l'impasse dans laquelle se trouvait Océane.
Ah oui, très clairement, puisque pour elle, elle a eu le choix hein, de se rapprocher de la personne en fait, qui aurait pu régler son problème, qui était donc en l'occurrence la banque, et on ne lui a donné aucun choix. Donc là, elle s'est retrouvée dans cette impasse, effectivement.
Mais elle avait le choix aussi de de vous en parler à vous, d'en parler peut-être à un autre frère ou sœur. Elle avait le choix d'en parler à sa maman.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est vrai que on peut pas expliquer l'inexplicable.
Bien sûr. Je pense que c'est ce que Clotilde a voulu dire aussi dans ce SMS, c'est que bien évidemment, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé dans la tête d'Océane. Seule elle le savait, ce qui se passait. Mais je trouve que l'absence de choix, en fait, et se donner la mort à 17 ans, c'est d'une violence tellement inouïe. Ce geste-là traduit bien l'impasse, en fait, le fait de je vais disparaître parce que tout ça va s'arrêter, parce que j'ai plus de choix, finalement. Je peux pas m'en sortir.
C'est exactement ça, et c'est pour ça, justement, par le biais de la médiatisation, par le biais des actions qu'on essaye de mettre en place, dont une association que j'ai créée cette année, on veut justement que ces personnes qui se sentent dans cette impasse reprennent en fait compte le statut qui est le statut de victime et non de coupable. Parce que dans les échanges que j'ai pu avoir avec la majorité, ce sont des jeunes filles qui ont souhaité rester
anonymes,
elles me parlent beaucoup de honte, soit de honte, quand j'ai été en parler justement des faits d'escroquerie au niveau de la police, on ne m'a pas écoutée. Quand je me suis rapprochée auprès de ma banque, on m'a dit « c'est votre compte, vous avez accepté, vous êtes responsable ». Donc en fait, compte, on oublie que face à ces autorités, vous avez une victime. Et je pense qu'il faudrait essayer de remettre justement cette manière de voir, de penser, pour justement éviter d'arriver à une issue aussi tragique.
Mais je crois qu'on peut... On peut ce soir, à travers l'histoire d'Océane, on peut justement évoquer bien ce que vous êtes en train de nous dire, évoquer l'importance d'agir, de se battre pour justement que c'est ça me fait penser, vous savez, à tous ces histoires de revenge porn, de nude sur Internet. Aujourd'hui, chaque année, il y a beaucoup d'adolescents qui tentent de se faire du mal et qui, pour certains, y arrivent parce que, en fait, ils sont victimes de revenge porn. Je vous explique ce que c'est pour celles et ceux qui ne savent pas. À un moment, des couples, des jeunes couples se filment en train de faire l'amour. Et puis après, bien évidemment, quand on se sépare, eh bien, celui ou celle qui n'est pas content va aller mettre ça sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup de garçons demandent à des filles de leur montrer des photos d'elles nues. L'inverse se produit, mais proportionnellement beaucoup moins. Et quand cette photo se retrouve à circuler parmi les élèves du collège ou du lycée, ou dans des cercles où elle n'a rien à faire, là, cette photo ou ce film, eh bien, cette honte, elle peut provoquer, comme on le sait, et finalement, ce qui a provoqué chez Océane, ça, c'est la peur de vous faire des ennuis, la peur d'être la honte de la famille, quelque part.
Exactement ça. Donc, c'est pour cela qu'on souhaite montrer la société, puisque c'est vraiment un problème de société, puisque là, dans le départ d'Océane, ça a soulevé donc les problèmes d'escroquerie, les problèmes rencontrés avec les réseaux sociaux. Dans les démarches qu'on est en train de faire, oui, je vais pas vous mentir, c'est très lourd, psychologiquement, physiquement, financièrement. Mais on a décidé d'aller jusqu'au bout de nos actions. Depuis maintenant 2 ans et demi, moi je me bats au quotidien pour dénoncer, pour alerter, pour essayer d'ouvrir justement la parole et essayer que ce soit auprès du gouvernement, puisque là, en l'occurrence, les réseaux sociaux, on se dit très clairement que c'est un fléau. Là, on parle de revenge porn, on parle de photos macabres diffusées sur les réseaux sociaux, mais on parle aussi de harcèlement scolaire. Là, il y a eu une tendance, le happy slapping, qui est qu'un camarade gifle un autre de ses camarades de classe et diffuse cette agression sur les réseaux sociaux. On a eu aussi des vidéos de viol collectifs qui ont été quand même partagées sur les réseaux sociaux. Donc, au-delà des auteurs, ce qu'on essaye aussi de dénoncer, c'est que certes, il y a l'auteur qui est responsable, mais les gens qui partagent aussi sont autant responsables.
Bien sûr.
Parce que dans le partage, moi, j'appelle pas ça le partage, j'appelle ça vous impose une vision. Moi, je ne demande pas à recevoir ce type de vidéo ou de photo. Donc, pour que les gens, à un moment donné, dès lors où ils reçoivent ce type de photo ou vidéo, arrêtez de partager. Arrêtez de partager et surtout, dites à la personne qui vous l'a envoyé, écoute, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu sais que c'est interdit, que c'est puni par la loi?
Mais il y a dans cette histoire, dans ce que vous nous racontez aujourd'hui aussi, une question de prendre ses responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans votre histoire, et d'ailleurs beaucoup de SMS arrivent au 739-21, Catherine, Eliane, Ingrid, Feria, Eliane Delisle aussi, qui se demande, voilà, est-ce qu'il y a, il va y avoir des condamnations pour cette banque, pour le directeur de cette banque et pour la, la personne qui était en charge du dossier d'Océane? Est-ce que l'auteur des escroqueries a été condamné? Est-ce que celui qui a mis cette photo sur Snapchat a été condamné? Est-ce que Robert nous demande si Snapchat a été condamné parce que il souligne le support hein, qu'est ce réseau social qui se doit de modérer, en fait, nous dit Robert. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre à toutes ces questions? Qui a été condamné dans tout ça? Qui va un peu être mis devant ses responsabilités et, voilà, je vais dire payer. On ne paye jamais, hein, finalement, mais être condamné pour tout ça. D'abord, l'auteur des escroqueries.
Alors, l'auteur des escroqueries... Donc cet individu, au-delà très clairement d'avoir été le bouton qui a poussé Océane à mettre fin à ses jours, il faut savoir qu'il ne s'est présenté à aucune audience.
Il n'est pas venu.
Il n'est pas venu. Donc il y avait une première audience au mois de juin 2019. Donc il ne s'est pas présenté. Donc l'audience a été reportée en octobre 2019. Il ne s'est à nouveau pas présenté. Sa mère était présente. Mais l'auteur ne s'est pas présenté. La première fois, et c'est pour ça que, encore une fois, on a eu effectivement une décision de justice, mais pas assez lourde par rapport à cet acte. Parce qu'il faut savoir que, voilà, comme excuse, c'était il ne se sentait pas la force de venir voilà, au tribunal face à nous tous. Il faut venir reconnaître ses actes, je suis désolée. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à sa mère, qui a voulu présenter des excuses. Je lui ai dit très clairement, madame, vous n'avez pas à vous excuser, où est votre enfant?
Oui.
Aujourd'hui, c'est votre enfant.
Enfin, votre grand-enfant. Hein.
Voilà, exactement.
Parce que,
où est-il?
Ouais, il avait 21 ans, hein, je crois.
Au
moment du jugement. Voilà, hein.
Exactement. Donc, où était-il? Donc, il ne s'est pas présenté les deux fois, or que le président du tribunal, la première fois, avait dit qu'il souhaitait et qu'il fallait que l'auteur de l'escroquerie soit présent, il n'est pas venu. Donc déjà, là, on a la justice qui donne quand même une directive. Là, on a un escroc, clairement, qui s'en fout puisqu'il ne s'est pas présenté. Donc lui, il a été condamné malgré son absence, donc à seulement un an de prison avec sursis, malgré qu'il ait déjà été... justement condamné à des faits similaires auparavant. Donc là, on parle que d'un an avec sursis.
Oui, on parle d'une récidive.
Voilà, et des dommages et intérêts donc à verser à la famille, sachant que l'escroc, on n'est pas dupe, il n'est pas solvable, on n'attend pas honnêtement...
Non, il n'y a pas grand-chose à attendre. Ouais.
Exactement. Mais on a voulu aller au bout de cette procédure parce que y a des lois, il faut qu'elles soient appliquées.
Après, soyons justes, hein, Laurence, cet homme, ce jeune garçon hein, qui est un adulte aujourd'hui, n'est pas responsable hein, de la mort d'Océane. Il a été l'un des éléments déclencheurs, mais on ne peut pas lui remettre la moindre responsabilité de tout ça. Mais ne pas se déplacer, on voit combien il avait de respect pour votre sœur, en fait. Parce que quand on a le moindre notion d'honneur, je sais pas, de respect, quoi, bon, on assume ses actes.
Exactement. Donc là, effectivement, pour ce premier procès, donc, il y a eu effectivement condamnation. Donc à savoir qu'il avait un complice, cet individu. Son complice n'a pas pu être jugé puisque lui-même était jugé pour une affaire de vol aggravé dans le sud de la France. Donc c'était vraiment, on va dire, un réseau, hein, ouais. Très clairement, un réseau de bandits. Donc ça, c'était le premier procès. Concernant justement donc la photo,
l'auteur de la photo, ouais.
Exactement. Donc là, il y a une décision de justice qui a été rendue donc le 28 octobre de cette année, qui condamnait effectivement donc l'auteur à verser des dommages et intérêts et qui le condamnait suite à la diffusion de ce cliché. Alors également donc à verser aussi dommages et intérêts à la famille. Faut savoir que concernant Snapchat, je vous cache pas que nous on s'est jamais rapproché d'eux, à savoir si la photo avait été supprimée avant ou après justement, puisque les photos sur Snapchat restent 24 heures. Donc là, je pourrais pas du tout vous le dire puisque très clairement notre esprit était vraiment ailleurs. Donc là, je ne sais pas du tout, au niveau de Snapchat, ce qui avait été mis ou pas en place. Mais nous, en tout cas, nous n'avons pas alerté Snapchat à ce moment-là.
Mais Snapchat aurait dû, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous voyez, quand on met une musique, vous voyez, sur Instagram, qui accompagne une photo ou un petit film, tout de suite, ça saute.
Et voilà.
Pour peu que ça soit donc une musique qui a bien un auteur, qui est répertorié à la SACEM, ou en tout cas qui est une œuvre déclarée. Donc ça, alors bien évidemment, c'est géré par des machines, mais on ne va pas me dire aujourd'hui que dès qu'il y a une photo de nu, de tête décrochée d'un corps, qu'il n'y a pas la possibilité de modérer, en tout cas d'avoir une attention, enfin d'une responsabilité en fait. Parce qu'on parle de la responsabilité de ce crétin là, qui photographie ça le soir, le matin, et qui va mettre ça sur Snapchat, on se demande ce qui lui est passé par la tête à celui-là, hein. Vraiment.
Eh ben, justement, c'est les questions qu'on se pose, et c'est pour cela que j'ai alerté auprès du gouvernement, puisque j'ai écrit une lettre à M. Emmanuel Macron, et son chef de cabinet m'a répondu, en orientant justement mes demandes d'information donc auprès des ministères, dont le secrétariat d'État chargé du numérique, avec qui j'ai pu échanger, parce que justement, on en a entendu parler justement malheureusement avec l'assassinat de M. Paty, c'est qu'on a, il y avait la loi Avia qui était proposée et qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et donc là, on reparle encore justement de tout ce qui est partage et diffusion sur les réseaux sociaux. Et je voudrais vraiment qu'au niveau du gouvernement, on n'oublie pas cette face-là de la violence qui est justement le revenge porn, tout ce qui est photos macabres et autres qui est relié aux réseaux sociaux. Puisqu'il y a, comme vous l'avez dit Olivier, ce sont des machines qui gèrent, on parle d'algorithmes. Il y a un documentaire qui est très intéressant sur Netflix qui parle de tout ça. Donc effectivement, il y a des paramètres, des algorithmes qui sont faits pour censurer certaines choses. Mais là, on parle quand même de violence, on parle quand même d'images macabres.
Mmh. On parle d'un irrespect, d'une attitude qui en dit beaucoup de ces réseaux sociaux et du niveau. Ça en dit beaucoup de notre société et de certains. Certains hommes et certaines femmes qui usent beaucoup, et beaucoup de jeunes. Hein. Ça dit beaucoup de l'incohérence, du vide intersidéral dans tous ces cerveaux que provoquent ces réseaux sociaux. C'est devenu une espèce de truc tactile là, sur le téléphone. On ne réfléchit plus. Je les vois, tous ces gens qui sont accros à ça. C'est terrible. Ça va avoir une répercussion sur les cerveaux.
Exactement.
Mais, et je parlais de responsabilité tout à l'heure, parce qu'il y a quand même ce troisième volet dans ce que vous avez traversé, qui est celui de ouvrir des comptes à ces jeunes. C'est bien aujourd'hui, c'est bien de, dans notre société de consommation, là, de créer tout ça, des cartes où ils peuvent payer maintenant par carte, par mettre sur leur téléphone, tout ça. Mais finalement, on voit que la banque, ce qui les a intéressés dans un premier temps, comme n'importe quel banquier, hein, c'est d'avoir un client de plus.
Exactement.
Mais après, en termes de responsabilité, mais c'est un naufrage total. L'attitude de cette conseillère et l'attitude de ce directeur. Enfin, moi, je serais à la place de votre mère ou de votre père, mais je serais encore en furie totale.
Oui, mais c'est le cas. C'est le cas parce que, voilà, c'est encore une fois, c'est une succession. C'est une histoire, voilà, avec une succession d'événements.
Et tout ça, vous voyez, vous évoquiez tout à l'heure votre association pour parler à ces jeunes, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent être considérés comme des victimes, qu'il ne faut pas avoir honte. Mais finalement, quand on regarde les trois volets de cette histoire, de l'histoire d'Océane et de votre histoire à vous, famille, victime aussi de cette violence, eh bien, finalement, dans ces trois volets, on voit l'irresponsabilité des gens, le non-respect des gens et la non-prise de responsabilité qui aboutissent quand même à la mort d'une jeune fille de 17 ans à laquelle la vie tendait les bras. Je le répète encore, parce qu'Océane, elle était partie pour être une brillante étudiante, elle était une jolie fille, elle devait avoir une superbe vie, cette petite. Et finalement, la succession de toutes... Alors bon, on enlève la photo, parce que la photo, elle vient après. Mais entre le banquier qui ne réagit pas et l'escroc au début, bon, alors l'escroc, lui, c'est pareil, il doit rien avoir dans le chou, celui-là, donc... Bon, mais le banquier, la banque, enfin, c'est... Voilà, et le combat aujourd'hui à mener, c'est de mettre dans la tête des gens qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités quand ils sont devant quelque chose qui va mettre en danger un enfant comme ça, qui dépose des chèques qu'on peut plus que soupçonner. Hein, quand... on entend une femme hurler au cinquième étage et qu'on habite le troisième et qu'on dit rien et qu'on sait pertinemment bien qu'elle est en train de se faire taper par son mari ou par son compagnon, mais on dit rien. Quand on voit des traces sur le corps sur les jambes d'une gamine ou d'un gamin qui va à l'école ou qui rentre à l'école. Finalement, en fait, c'est pour ça qu'en fait, quand vous m'avez raconté votre histoire cet après-midi, je me suis dit, mais mon Dieu, ce sentiment de gâchis que j'ai eu, ça m'a tenu toute la journée. Voilà.
Ah non, mais je comprends bien, parce que moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui, une société qui se déshumanise.
Ouais.
Et non, moi, je refuse de vivre dans cette société-là. C'est pour ça qu'on... Voilà, ça nous est tombé sur la tête. Mes parents ont clairement dit, il faut qu'on en parle parce qu'il ne faut pas que ça se répète.
Exactement.
Et effectivement, il faut parler. Je comprends les difficultés que certains peuvent rencontrer, hein, puisque moi, je sais que, il y en a, encore une fois, je le dis, hein, dont on a eu ce policier qui a été vraiment à notre écoute et qui a fait son travail.
Qui a pris ses responsabilités, Laurence.
Exactement. Eh bien, c'est exactement ça. Je pense qu'il n'est pas le seul au niveau de la police nationale.
Non, bien sûr que non.
Là aussi, il y a quelque chose à faire. Il faut redonner confiance. Il faut qu'au niveau de ces institutions, les victimes soient écoutées, soient entendues et pas « Ah ben non, écoutez, vous êtes responsable. » Parce que justement, ça pourrait peut-être freiner certaines délinquances. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce chemin qu'on souhaite prendre et essayer d'essayer de casser tout ça. Parce que, encore une fois, là, moi, la petite sœur, j'ai senti vraiment le manque pendant cette période de confinement. Parce qu'elle avait toujours le sourire, toujours le petit geste le petit geste d'amour, et je me suis dit, merde, j'ai plus ma sœur. J'aurais dû être avec ma sœur confinée à la maison. J'aurais dû partager encore des moments avec elle. Ma mère aurait dû, on aurait dû, avec mon père, nos frères et sœurs, fêter son bac. On devait l'inscrire justement, l'inscrire au permis de conduire. Toutes ces choses-là, on nous les a enlevées. Parce qu'il y a eu la banalisation des faits, il y a eu la banalisation de l'escroquerie. Mmh. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec notre dernière petite sœur qui était vraiment, et c'est pas parce que c'est ma petite sœur, mais c'était vraiment une gentillesse personnifiée.
Ce soir, en tout cas, une chose est certaine, c'est que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a certains qui sont concernés par ça et qui ont un ado plus ou moins près ou loin, mais un ado qui est victime de ce type de choses, de ce type d'irresponsabilité et qui affronteront ça demain. Parce que notre société produit cette déshumanisation dont vous parlez, Laurence, elle ne fait que les mettre en danger chaque jour. Donc, sans vouloir rendre tout le monde paranoïaque et faites attention, ne laissez plus sortir vos enfants, ce n'est pas de ça dont il est question, c'est de reprendre nos responsabilités, en fait, et de faire attention aux uns et aux autres. Avant que nous nous quittions, en fait, j'aimerais que vous me disiez quel est le nom de votre association, savoir où on peut vous trouver, et on l'inscrira sur notre groupe de parole pour que les gens qui ont envie de visiter votre site puissent vous trouver, Laurence.
Oui, alors on est sur Facebook, l'association s'appelle Prévention Océane. Mmh. Donc on est sur Facebook, Instagram, et Twitter. Là, c'est vrai qu'on est plus dans une démarche justement de récolte de témoignages pour vraiment avoir un poids, puisque là, je suis vraiment dans une démarche avec certains membres du gouvernement, hein, très clairement, pour essayer d'avoir un appui et faire évoluer les choses. Donc là, c'est une récolte de témoignages, anonymes ou pas, pour pouvoir échanger. Des personnes se trouvent dans la situation dans laquelle Océane a été, surtout ne pas hésiter à me contacter. S'il le faut, voilà, je donnerai les démarches que j'ai effectuées, hein, puisque j'ai pris le dossier à bras-le-corps pour justement être au courant, savoir ce qu'il fallait faire. Donc, je sais où chercher. Donc, voilà, faut pas hésiter. Il faut se rapprocher
d'accord.
L'association.
Okay. Merci mille fois, Laurence. On retrouvera Prévention Océane sur le groupe Facebook de parole d'Europe 1, de la Libre Antenne. Et puis, je vous souhaite plein de courage et plein de force pour ce combat important. Et merci mille fois d'avoir pris la parole ce soir sur Europe 1.
En tout cas, merci beaucoup, Olivier, de justement m'avoir permis de pouvoir échanger sur ces cas-là.
Mais je vous en prie. Passez une bonne soirée. Au revoir.